Chapitre 58. Dans les hautes plaines, la chaleur était déjà insupportable. En descendant vers la vallée, on aurait cru entrer dans un four. À chaque inspiration, Jensen avait l'impression de cuire de l'intérieur. Et ici, le moindre souffle d'air évoquait les émanations d'un chaudron en pleine ébullition. Par endroits, la piste disparaissait et il fallait slalomer au hasard entre de gros rochers. Heureusement, un peu plus loin, des sortes d'ornières imprimées dans le sol en pierre tendre indiquaient de nouveau le chemin. Assez rarement, hélas, la voie était large et bien dégagée, un vrai bonheur, car il n'y avait aucun risque de se perdre. De temps en temps, des éboulis dissimulaient toute trace d'un chemin et les deux jeunes gens devaient se décider au hasard. Grande experte en pistes de toutes sortes, Jensen aurait mis sa tête à couper que celle-ci était très ancienne et fort rarement utilisée. Même si la chaleur était étouffante, les tenues bleues des nomades rendaient l'expédition à peu près vivable. Le tissu noir sous les yeux de Jensen absorbait la lumière et lui épargnait d'être ébloui. Quant au manteau, au lieu de la faire crever de chaud comme elle l'avait redouté, il empêchait le soleil de lui frire la peau et lui fournissait comme un semblant de fraîcheur. Le moindre réconfort était bienvenu, car la maudite piste, montant et descendant sans cesse, était interminable. Avec un sol rocheux si lisse, une descente directe aurait été impossible, à moins d'avoir un goût prononcé pour les toboggans. En alternant montée et descente, une sorte de chemin en dents de scie, les hommes qui avaient tracé la piste s'étaient montrés très ingénieux. Mais l'exercice se révélait épuisant. Un jour, Sébastien avait dit à Jensen que très peu de fous, sinon aucun, s'aventuraient dans la vallée où se dressaient les piliers de la création. À présent, elle comprenait pourquoi. En réalité, l'étonnant n'était pas que cette piste existe, mais plutôt que quelqu'un l'ait tracée un jour. Un des fous qui n'était jamais revenu de leur voyage, sans doute. Pour Jensen, la perspective d'un retour n'était plus d'actualité et ça lui faisait un sujet d'inquiétude en moins. À mesure qu'on approchait de la vallée, le terrain devenait de plus en plus accidenté avec des crevasses et des ravines à foison. Désormais, la piste décrivait une spirale vertigineuse, et la perspective à certains endroits avait de quoi donner le vertige. Immobile sur une saillie rocheuse, histoire qu'on la voie de loin, Sœur Perdita attendait les jeunes gens avec un agacement visible. À l'évidence, elle se demandait pourquoi ils traînaient ainsi. L'ombre qui envahissait peu à peu ce fantastique paysage lui conférait une dimension surréelle. À la lumière du soleil couchant, les falaises et les rochers déchiquetés ressemblaient à des soldats en armes, prêts à écraser impitoyablement les intrus. Posant une main sur l'épaule de Jensen, Sébastien la guida entre une série de rochers si hauts et si droits, on eût dit les colonnes d'un temple, qu'ils faisaient penser à des arbres géants dépouillés de leur feuillage et de leurs branches par quelque ouragan. Depuis que son compagnon et elle avaient quitté les nomades, Jensen avait le sentiment que quelque chose clochait. Mais elle n'aurait su dire quoi, et le regard furibond de Perdita ne lui donnait pas envie de marquer une pause pour y réfléchir calmement. Pour la centième fois, elle s'assura de la présence de son couteau sur sa hanche. Dès qu'elle avait vu l'arme, sur le cadavre du soldat d'Aran, elle l'avait trouvé magnifique, et son opinion n'avait pas changé. Le premier jour, le R gravé sur la garde l'avait terrorisé. À présent, le tapoter du bout des doigts lui donnait l'espoir de mettre enfin un terme au cauchemar de l'humanité et au sien. Après un très long cheminement, elle allait faire ce que Sébastien lui avait conseillé dès le premier jour, retourner ses propres armes contre l'ennemi. La vie de Sébastien n'avait pas été facile depuis sa rencontre avec Jensen. Dès la première nuit, alors qu'il tremblait de fièvre, il avait dû affronter les tueurs du seigneur Rall. Jensen n'oublierait jamais sa bravoure. Ce soir-là, il s'était battu comme un lion alors que la maladie le minait. Plus tard, il y avait eu l'attaque magique d'Adi. Sébastien était passé très près de la mort, mais les sœurs l'avaient sauvé. Même si elle n'en ferait pas partie, elle se réjouissait de savoir qu'il avait un avenir. Soudain, elle s'avisa qu'elle ne lui avait jamais fait ses adieux. Sans doute parce qu'elle refusait de se laisser aller devant Sœur Perdita. Jensen s'arrêta, prit son compagnon par le bras, puis dénoua l'écharpe noire qui dissimulait sa bouche. « Sébastien, je tiens à te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. » Le jeune homme aux cheveux blancs sourit sous son masque de tissu noir. « Jen, ne parle pas comme si tu allais bientôt mourir. » Comment pouvait-elle lui dire que tel était le cas? « Qui sait ce qui peut m'arriver ? » « Allons, ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Pendant que certaines sœurs me soignaient, d'autres t'ont aidé avec leur magie, et Perdita ne te laissera pas tomber. Je suis là aussi, ne l'oublie pas. Aujourd'hui, tu vas enfin venger ta mère. » Bien entendu, Sébastien ignorait à quel prix les sœurs accordaient leur aide. Elle se refusait à le lui dire, mais elle devait quand même trouver un moyen de s'exprimer. « Sébastien, s'il devait m'arriver quelque chose, Jane, ne dis pas ça. Surtout, ne dis jamais ça. L'idée de vivre sans toi m'est insupportable. Je t'aime et je n'aime que toi. Tu n'as pas idée de ce que tu représentes pour moi. Grâce à toi, ma vie a changé, et je n'aurais jamais cru qu'on puisse être si heureux. Sans toi, je ne pourrais pas continuer, ni supporter le fardeau qu'est l'existence lorsqu'on est seul. Par ta présence, tu rends le monde acceptable à mes yeux, et c'est extraordinaire. Je t'aime comme un fou, alors ne me torture pas en évoquant l'éventualité de ta disparition. » Jensen sonda le regard bleu de Sébastien, bleu comme celui de son meurtrier de père, paraissait-il. Et il ne trouva pas les mots pour dire qu'elle allait quitter ce monde et qu'il serait bien obligé de continuer sans elle. Sachant à quel point la solitude était un fardeau écrasant, elle se contenta de hocher la tête.
« Dépêchons-nous, »
dit-elle en remettant l'écharpe sur sa bouche.
« Perdita nous attend. »
Quand les deux jeunes gens l'eurent rejointe, la sœur foudroya du regard Jensen, coupable d'avoir perdu du temps en bavardant. De là où était Perdita, la piste descendait directement et abruptement jusqu'au pilier de la création. Quand elle la dépassa, Jensen remarqua que la sœur continuait à regarder dans la direction d'où Sébastien et elle venaient. Intriguée, elle se retourna et son compagnon l'imita. Le point d'observation que Perdita avait choisi était l'ultime intersection de la piste. Si la dernière ligne droite descendait sans la moindre étape, cet endroit particulier, par le jeu des montées et des descentes, était assez haut pour qu'on puisse voir dans le lointain le comptoir commercial et une partie du désert. Le cavalier était presque arrivé. Galopant à bride abattue, il fonçait vers l'entrée de la piste. Les 1000 cavaliers l'y attendaient, armes au clair. Un peu avant d'atteindre les soldats de l'ordre, le magnifique étalon du voyageur solitaire tomba raide mort d'épuisement sous son cavalier. Par un pur miracle, l'homme parvint à ne pas finir écrasé sous sa monture. Se relevant souplement après un formidable roulé-boulé, il continua aussitôt sa charge folle. Il portait des vêtements noirs, et une cape dorée battait sur ses épaules, et il paraissait beaucoup plus grand que tous les nomades que Jensen avait vus. Le commandant des cavaliers cria à l'inconnu de s'arrêter. Comme s'il n'avait rien entendu, l'homme dépassa le comptoir commercial et se dirigea vers l'entrée de la piste. 1000 guerriers poussèrent leurs cris de guerre et chargèrent. Jensen jugea que c'était un peu beaucoup pour intercepter un homme seul et désarmé qui ne semblait pas avoir d'intention hostile. Le voyageur leva un bras pour ordonner aux cavaliers de s'arrêter. Le pauvre rêveur. Quand on connaissait leur caractère et l'ordre que Sébastien leur avait donné, ces guerriers ne seraient pas satisfaits avant d'avoir réduit en bouillie leurs victimes. Avec une fascination morbide, Jensen se prépara à assister à un meurtre abominable et grotesque. 1000 soldats d'élite pour abattre un seul idéaliste aux mains nues. Le bruit d'une explosion arracha la jeune femme à sa sombre méditation. Aveuglée par une vive lumière, elle leva un bras pour se protéger les yeux. Un formidable éclair venait de jaillir du néant et fondait en rugissant sur les soldats d'élite de l'ordre impérial. Mélange de lumière blanche et noire, mais comment cela pouvait-il exister? Cette foudre n'avait rien de naturel, et elle semblait vouloir dévaster le monde des vivants. En une fraction de seconde, il sembla que toute la chaleur contenue par le désert et les piliers de la création s'était ramassée sur elle-même pour se déchaîner contre les cavaliers de l'ordre. Quand cette vague destructrice déferla sur les soldats, elle se dissipa après une seconde explosion 10 fois plus forte que la précédente. Comme si tout ça ne le concernait pas, le voyageur continua son chemin, passant sans les voir à côté des cadavres fumants de 1000 hommes et d'autant de chevaux. Plus que la violence aveugle de sa magie, le détachement de ce monstre réveilla la colère de Jensen.
« Par les esprits du bien, » murmura-t-elle, « que s'est-il passé ?»«
Le sacrifice est le plus court chemin vers le salut, » dit Perdita. Ces hommes ont péri en servant l'ordre, et le Créateur saura les en récompenser. Il est inutile de les pleurer, ma fille. En mourant ainsi, ils se sont ouverts la voie de l'éternelle béatitude. »
Jensen eut du mal à en croire ses oreilles.
« Qui est cet homme ?»
demanda Sébastien en désignant le voyageur qui venait de s'engager sur la piste.
« On s'en fiche !»
répondit Perdita.
« Nous avons une mission et elle passe avant tout !»«
Dans ce cas, dépêchons-nous de l'accomplir !»
marmonna Sébastien.
« Parce que ce type ne tardera pas à nous rejoindre, à l'allure où il marche. »